que mais ordena dentro de ti a cidade.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur le site Spectre, spectremedia.org, avec beaucoup d'autres podcasts militants et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors, on reprend notre épisode sur la dictature salazariste au Portugal, et avec une deuxième partie dans laquelle on va davantage développer en quelque sorte les piliers du régime salazariste que sont l'Église catholique, mais aussi le système colonial et le corporatisme. On va discuter cette question du corporatisme et en fait à travers ça la question de la politique économique et sociale du régime vis-à-vis notamment du capital et des travailleurs. Et bien sûr, on en viendra à la question des guerres coloniales et de la crise très profonde dans laquelle entre le régime dans les années 60 qui va l'amener à sa chute le 25 avril 1974, sous l'action héroïque du mouvement des forces armées composé de capitaines et de commandants, c'est-à-dire de jeunes officiers intermédiaires. Pour en parler, je reçois à nouveau l'historien Victor Pereira, auteur de nombreux travaux, livres et articles sur l'histoire du Portugal. Bonjour Victor. Peut-être ça peut être intéressant de revenir sur les autres piliers, notamment l'Église catholique, qui joue un rôle assez crucial dans le régime. Nikos Poulantzas, dans son livre sur la crise des dictatures, dit que c'est le principal appareil idéologique du régime. Est-ce que tu suivrais cette caractérisation? Est-ce que par ailleurs, il y a aussi des résistances au sein de l'Église, des franges qui se détachent progressivement ou dès le départ du régime dans un sens de prêtres, peut-être pas rouges, mais en tout cas de prêtres progressistes notamment? Et est-ce qu'il y a une distinction à faire entre la hiérarchie de cette Église catholique, les évêques, etc., et la base? Voilà, une série de questions sur le rôle de l'Église.
Plus loin de ça, ça a assez raison, dans le sens où l'Église catholique a eu un rôle fondamental dans le salazarisme. Salazar lui-même vient de ce milieu. Salazar avait été séminariste. Mmh. Il aurait dû devenir curé. Il ne l'est pas devenu, il a changé d'avis au cours de sa formation, mais il est resté extrêmement lié à l'Église catholique. Et dans ces années étudiantes, ce sont les premières années de la Première République, qui est extrêmement anticléricale, qui s'attaque à l'Église catholique, qui retire certains privilèges de l'Église catholique. Et cet anticléricalisme de la Première République va, en réaction, provoquer une organisation de l'Église catholique et d'un parti catholique qui va vouloir défendre les intérêts de l'Église. Et Salazar, c'est dans ce milieu-là qu'il évolue. C'est là où il rencontre celui qui va devenir ensuite le cardinal de Lisbonne, Sregel, dont ils vont vivre ensemble pendant quelques années à Lisbonne. Et vraiment, c'est ce milieu-là d'où vient Salazar. Et Salazar, au pouvoir, il dit « Je veux défendre les intérêts de l'Église catholique et les valeurs de l'Église catholique, la morale catholique, et une morale extrêmement conservatrice. » Ensuite, une fois qu'il est au pouvoir, il va ensuite défendre est à César ce qui est à César, est à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, ce n'est qu'en 1940 qu'il y a un concordat avec l'Église catholique et qu'une partie des privilèges de l'Église sont restaurés, mais pas tous, en fait, après. Mais ce qui est très important, c'est que non seulement il y a cette hiérarchie qui est dans un esprit de croisade et notamment de croisade. Alors, une grande partie de la population est encore catholique, mais notamment dans le sud du pays, il y a déjà une certaine sécularisation. Et donc, l'Église catholique est assez offensive à critiquer ce qui s'est passé avant, le libéralisme, les idées pernicieuses, et à réinstaurer une morale extrêmement conservatrice.
Qui se manifeste notamment par un patriarcat particulièrement brutal.
Tout à fait.
Les droits des femmes sont réduits à néant. Le mariage est indissoluble. Le divorce n'est pas permis. Il y a toute une série de dispositions qui assurent une domination masculine totale.
Avec un discours qui, dans de nombreux pays, même dans l'Allemagne nazie, sont bien sûr souvent contradictoires avec cette idée de la femme qui doit rester à la maison, mais la femme qui doit souvent travailler, en fait, parce que pour survivre, et dans des conditions extrêmement difficiles. Et dans ce pays de la morale catholique, le droit de cuissage était en partie employé par une partie du patronat. Donc, une Église catholique très conservatrice qui va, et en plus que sous-entend Poulantzas, c'est que, et ça renvoie aux arguments, aux débats sur le totalitarisme. Qui est-ce qui est la courroie de transmission du discours idéologique? Qui est-ce qui, tous les dimanches, dit aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? C'est le curé. Et effectivement, une grande partie de l'Église catholique remercie chaque dimanche la Providence d'avoir donné au Portugal Salazar. Il est souvent représenté comme quelqu'un qui se sacrifie et qui a été donné par la Providence. Et donc, pendant des années et des années, c'est par le biais de l'Église catholique que le discours conservateur, réactionnaire de la dictature passe. Alors après, il y a des limites, et c'est pour ça que moi, je suis assez attentif aux limites de ce discours sur le totalitarisme. Notamment, les années 60, le ministère de l'Intérieur, il enjoint les curés à dire tous les dimanches, surtout n'émigrez pas en France. Surtout, ne partez pas. Ne partez pas, vous allez être trompé par les passeurs. Les passeurs sont tous des personnes sans scrupules qui vont vous prendre votre argent. Quand vous arriverez en France, vous ne trouverez que des bidonvilles. Épouse, ne laissez pas vos maris partir, parce que sinon, une fois qu'ils seront en France, les Françaises vont se les approprier, etc. En dépit de ce discours dont on voit les traces dans les archives, notamment au XIXe siècle, on placardait sur les portes des églises le nombre des morts au Brésil, pour essayer d'inciter les gens à ne pas partir au Brésil. Donc il y a un discours de « ne partez pas, restez là », et 900 000 Portugais sont partis en France. Donc il y a certes un discours, mais il faut aussi s'intéresser à la réception. Et les gens n'obéissaient pas de façon acritique à ce qu'on leur disait. Et pour revenir au deuxième point de ta question, la grande majorité de l'Église catholique va être et rester conservatrice. Et soutien du régime. Néanmoins, dans les 50, il y a quelques, notamment un curé dont on a un peu fait l'histoire, c'est Albert Valzy, un peu lié à la JOC en fait, avec cette vision
ouvrière chrétienne.
Chrétienne, exactement, ouverte sur le mouvement ouvrier, attentive aux injustices. Et en 58, il y a l'évêque de Porto qui va faire une lettre dirigée à Salazar où il critique le régime qui défend en fait l'inégalité, défend les plus riches et laisse une grande partie de la population dans une misère, selon lui, injustifiée. Et cette lettre va être rendue publique et Salazar va être extrêmement mécontent parce que pour lui, un des socles du régime, c'est l'Église catholique. Et il craint, autant il craint l'armée, autant il craint les progressistes au sein de l'Église. Notamment des lectures qu'il a et on voit, notamment dans les années 50-60.
En plus, c'est l'époque de Vatican II.
Exactement. Et il a extrêmement peur de ça. En fait, il a extrêmement peur. Une des oppositions qu'il craint le plus, c'est notamment l'opposition catholique progressiste, parce qu'elle peut toucher une grande partie de la population, notamment rurale, ouvrière, portugaise, peut-être bien plus que le communisme, peut-être. Parce que c'est des éléments, des référents qui sont communs au public qui écoute ce discours. Et donc, en 58, cet évêque de Porto, il part à Rome et on ne lui permet pas de revenir, donc il est exilé pendant une dizaine d'années. Et au cours des années 60, tu as quelques catholiques progressistes en rupture de banc avec l'Église portugaise et avec la dictature. Il y a les cas connus, Felicidade Alves, le curé d'une ville qui s'appelle Lixa, à côté de Porto, et qui, notamment, développe un discours contre la guerre coloniale. Et il y a un événement important qui est fin d'année 72 et 1973 à Capela do Rato, donc en plein cœur de Lisbonne, où des catholiques progressistes font un appel à la paix, ce qui, en période de guerre coloniale, est jugé comme subversif.
Bien sûr.
Donc, au cours des années 60 et 1970, tu as le développement de catholiques progressistes, donc soit de l'institution, rupture de banc, soit des militants civils. Et même, juste avant la révolution des œillets, tu as des catholiques progressistes qui collaborent avec des mouvements d'extrême-gauche qui prônent la lutte armée.
Il va y avoir des militants catholiques progressistes dans les organisations d'extrême-gauche, même pendant la Révolution.
Exactement.
Mais en France aussi,
avant la Révolution et pendant la Révolution. Et donc, il y a cette scission au sein du mouvement catholique, mais encore une fois, la grande partie de l'Église catholique est restée conservatrice et a soutenu la dictature. Et à partir de 1936, quand il y a quand même un tournant à droite de la dictature face à la guerre civile espagnole, face à la menace de la guerre civile espagnole, il y a la création de la Légion portugaise, de la jeunesse portugaise, parce qu'on craint la menace d'une révolution au Portugal. Et les autres, ceux qui ne sont pas, qui n'acceptent pas de rentrer au sein du régime et d'obéir à Salazar, sont réprimés et parfois expulsés, et ça va être le cas de Roland Plait, qui néanmoins, ensuite, va continuer sa carrière.
Sur la question des politiques économiques et sociales du régime, qui sont souvent résumées à travers le thème du corporatisme, qui me semble être un terme assez problématique, parce qu'en fait, ça renvoie en partie à une forme de mythologie, ou en tout cas d'idéologie du régime, qui prétend être un régime corporatiste, et d'une certaine manière, à travers cette revendication du régime, en quelque sorte, d'avoir surmonté l'antagonisme entre le capital et le travail en organisant leur collaboration dans le cadre des corporations. Et en réalité, quand on regarde, et c'est un peu ce à quoi tu nous invites, quand on regarde les pratiques réelles, les institutions, la manière dont elles fonctionnent, les corporations ont un caractère un peu fictif. D'ailleurs, je crois qu'elles sont créées véritablement assez tardivement dans l'histoire du régime. Ce qu'on fait, en tout cas, et qui pour le coup est assez concret, c'est que dès les années 30, on supprime les syndicats indépendants, on supprime le droit de grève, on oblige les gens à se syndiquer dans des syndicats nationaux qui n'ont de syndicats véritablement que le nom, puisque ce ne sont pas des organismes de défense des travailleurs, autonomes de l'État ou du patronat. On crée des organes et gremmes dans lesquels sont organisés les employeurs, les patrons. Mais en réalité, ce qu'on voit, alors je ne suis pas spécialiste de la dictature portugaise, mais c'est une domination patronale très renforcée, puisque les travailleurs n'ont aucun droit d'organisation et de mobilisation et de grève. Et en fait, au terme de ces 50 ans, on s'aperçoit que s'est développé un capital monopoliste très important. On parle des sept magnifiques, c'est-à-dire des grands groupes, des trusts en fait, hein, qui sont présents dans de nombreux secteurs, la CUF notamment, et quelques autres, et puis un certain nombre de familles qui dominent outrageusement l'économie portugaise, Champalimo, Espírito Santo, etc. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il ne faut pas aller aussi en cette matière-là, c'est-à-dire des rapports capital-travail, de la politique économique et sociale, des mythes du régime, jusqu'à la réalité, en quelque sorte, hein, de justement, qu'est-ce qu'il en est des rapports capital-travail dans la société portugaise de Salazar?
La formation de Salazar et des gens qui ont gravité autour de lui au début, c'est vraiment la pensée conservatrice d'extrême droite, fin 19e siècle, la menace socialiste. Mmh. Et les dangers de l'individualisme et du libéralisme. Et donc cette troisième voie, qui est aussi développée par l'Église catholique fin 19e siècle, donc ni socialisme, ni capitalisme, et la collaboration de classe contre la lutte des classes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le discours de Salazar dès le début des années 30. Et l'État nouveau, et dans la Constitution de 1933, il indiquait que le Portugal est une république corporatiste. Mmh. Sauf que là encore, entre le discours et les pratiques, il y a un décalage assez puissant. Dans le sens où, alors après, comme il y a des communismes et des socialismes et des anarchismes, il y a des corporatismes. Mmh. Donc il y avait différents courants de pensée, il y avait différentes expériences, notamment en Italie ou en Espagne avec Primo de Rivera, etc. Mais il y avait notamment un discours qui était, grosso modo, il faut qui privilégie un État moins interventionniste. Où d'un côté le capital et de l'autre côté le travail vont s'organiser et vont s'entendre, et l'État est juste là pour s'assurer que tout va bien. Or, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que ce que va mettre en place Salazar à partir des années 30, c'est un fort interventionnisme de l'État qui va quasiment tout réguler. Alors qu'on dit qu'il faut que l'État, petit à petit, disparaisse. Il y a une sorte de mythe de disparition de l'État dans une partie du corporatisme, que la société va se réguler quasiment toute seule. Au contraire, l'imposition du salazarisme et de l'appareil d'État salazariste va être un contrôle de toute l'activité économique. Tant et si bien que même parfois, certains historiens font presque des liens avec le stalinisme, dans le sens où tout est régulé, en fait. Le prix des matières premières, la quantité de matières premières, les prix des produits, tout est... l'État intervient, ne laisse quasiment aucune autonomie au marché, fixe les prix. Donc, ce n'est pas du tout un système libéral, c'est évidemment pas un système socialiste, mais où l'État intervient de façon arbitraire. Alors après, ça amène, ça c'est notamment les premiers travaux de Fernando Rosas, parce qu'évidemment, il y a des contradictions. Par exemple, Rosas, je m'en doute bien, une des contradictions, c'est autour du sucre. Est-ce que tu fais du sucre à partir de betterave, ou est-ce que tu fais du sucre à partir de canne à sucre qui vient de l'Empire? Comment tu régules, comment tu fixes des marchés, etc. Et ça, cette intervention de l'État, elle est souvent présentée comme temporaire. C'est juste le temps d'organiser les corporations. Et comme tu le dis, les corporations, c'est fin des années 50. Et elles vont quasiment avoir aucune importance. Et un des grands idéologues du corporatisme portugais, Marcelo Caetano, lui-même admettre que ça ne fonctionne pas, en fait, que le corporatisme, du moins tel qu'il est, le discours entre le discours et la pratique, a un fort décalage. L'autre grand changement, c'est la dictature survit à la Seconde Guerre mondiale. Et à partir des années 50, il y a notamment, après la Seconde Guerre mondiale, le courant moderniste, il faut moderniser le pays, il faut l'électrifier, il faut l'industrialiser, qui était un peu étouffé auparavant, va difficilement, mais réussir à imposer quelques idées. Dans 1953, il y a un premier plan de développement. Et tu vas voir ce que tu as dit, un plan de développement d'industrialisation qui va s'appuyer sur quelques grands groupes économiques qui existaient déjà et qui vont se développer à partir alors, de certains secteurs, notamment la COUF. C'était sur la fabrication d'engrais. Et ensuite, ces quelques grands groupes qui sont des groupes familiaux vont diversifier leurs activités. Ils vont tous plus ou moins avoir une banque, ils vont avoir une partie de l'industrie, ils vont tous avoir un média, donc avoir un rôle politique et assez influent. Et donc, l'économie portugaise, à partir des 50, va surtout se développer autour de ces grands groupes, certains qui préexistaient déjà, hein, mais qui vont se renforcer et qui vont racheter un petit peu tout. Et ça, c'est une des choses qui est voulue par les technocrates du régime, au nom de l'efficacité, de la productivité, qui vont mettre fin à les petits ateliers, les petites industries qui n'étaient pas très productrices, qui n'étaient pas très mécanisées.
Une concentration et centralisation du capital.
Exactement. Et dont on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est la grande critique, notamment faite par l'opposition, du capitalisme monopolistique. Mmh. Ça va être le grand mot. Et ça, Salazar, notamment si on revient un peu à l'actualité, Chega, le parti d'extrême droite, qui a fait 18%.
Aujourd'hui au Portugal. Ouais.
Son principal argument et son principal moteur électoral, c'est la dénonciation de la corruption. Mmh. En disant que les élites politiques, PS, PSD, sont corrompues. D'ailleurs, pendant 2023, il y a eu plein de cas de scandales, de corruption. Mmh. Certains
qui ont conduit déjà à la démission du premier ministre socialiste.
Qui, l'une d'elles, a conduit à la démission d'Antonio Costa, après 8 ans de pouvoir. Et alors, Ventura, je ne l'ai pas entendu dire ça.
Ventura, c'est le chef de Chega. Hein.
André Ventura, c'est le principal leader du parti d'extrême droite. Mais au Portugal, il y a souvent cette idée qui est répétée depuis longtemps. Hein, c'est que Salazar, au moins, il était incorruptible. Mmh. Salazar, au moins, il venait d'un milieu pauvre et il n'a jamais piqué dans la caisse et il s'est sacrifié pour la nation. Sacrifié individuellement, parce qu'il travaillait beaucoup, sacrifié individuellement parce qu'il n'a pas fondé de famille, et il n'a pas piqué dans la caisse. Mais ce que ce discours et cette rhétorique oublient, c'est qu'il y avait une corruption généralisée au sein de l'État nouveau, notamment autour de ces grands groupes économiques.
Bien sûr.
Et que notamment, il y avait, vous avez peut-être parlé du macronisme dans vos émissions, ce passage du privé au public, du public au privé.
Le pantouflage.
Exactement, où ces ministres qui, ensuite, après s'être sacrifiés pour le bien commun, vont travailler dans des grandes entreprises... où le bien commun n'est peut-être pas le premier intérêt. Il y avait aussi beaucoup, au sein de l'élite de l'État nouveau, ces passages entre le public et le privé, à des ministres qui ensuite étaient placés dans des grands groupes, etc. Et donc, il y avait la corruption. Et autour de ces grands groupes économiques qui sont ensuite extrêmement contestés, on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, en 74 et surtout en 75, quand il y a une vague de nationalisation qui touche l'économie portugaise à partir de mars 75.
Ouais. Alors, il y a un autre aspect de la politique économique du régime et qui aussi est à distance de l'idéologie nationaliste, etc. C'est que, à partir des années 60 notamment, il y a une entrée massive de capitaux étrangers, en particulier venant des États-Unis et de manière très croissante de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, et aussi de l'Angleterre et plus, de manière plus secondaire de France, qui contredit en quelque sorte la tendance qui était plutôt autarcique initialement du régime. Comment ça se fait qu'il y a, à partir des années 60, ça, est-ce que c'est lié aux guerres coloniales et à la nécessité, dans un moment où le Portugal, qu'on va consacrer jusqu'à presque 50%, si je ne m'abuse, de son budget aux guerres coloniales, est-ce qu'il y a besoin, en quelque sorte, de faire entrer des capitaux dans cette période-là? Et qu'est-ce que, finalement, ça change? Un des aspects de la Révolution, c'est le rôle moteur de la classe ouvrière industrielle, qui, en partie, est un produit de cette industrialisation rapide des années 60, non?
Oui, tout à fait.
Parce que les capitaux qui rentrent au Portugal, notamment, s'investissent dans l'industrie et profitent d'une main-d'œuvre peu chère et pas organisée. Quoi.
Et sans droit. Tout à fait. Un des changements extrêmement importants, et qui peut-être pas assez mis en exergue, c'est que le Portugal négocie et entre au sein de l'OLE, donc l'Association européenne de libre-échange, c'est la zone de libre-échange autour de la Grande-Bretagne qui n'a pas voulu rentrer dans l'Union européenne, dans la CE de l'époque, pardon. Et donc, face à la création de la CE en 1957, la Grande-Bretagne et d'autres pays, dont la Suède, la Suisse, l'Autriche, créent une autre zone de libre-échange. Et le Portugal rentre dans cette zone de libre-échange, en plus avec un statut favorable. Grosso modo, il peut plus facilement exporter et il est un peu protégé des importations des autres pays, notamment pour protéger son industrie. Et ça, ça va être un changement majeur parce que, effectivement, ce que tu dis, le discours de Salazar, et encore une fois, la différence, décalage entre les discours et la réalité, un discours très autarcique. Quand on écoute Salazar, parfois on a l'impression qu'il parle de l'Albanie, hein, j'exagère sur l'Albanie, mais... un discours nationaliste, patriotique. On l'a beaucoup cité, ses discours ou ses propos où il dit qu'il ne veut pas du capital américain, qu'il ne veut pas de Coca-Cola. Il n'y avait pas Coca-Cola au Portugal jusqu'à la Révolution, etc. Mais d'un autre côté, l'élite dirigeante, et une partie de l'élite dirigeante, c'est que si on veut nourrir la population, qu'on veut éviter la faim, tout simplement, il y avait déjà la faim, FIM, il faut industrialiser. Il faut, dans les années 30, Salazar a des discours sur le problème, c'est qu'il faut, la population croît assez vite et donc il faut l'alimenter, il faut trouver du, créer de l'emploi en fait. Et donc, pour une partie des dirigeants de la dictature, il faut s'ouvrir sur l'Europe. Alors, en plus, l'AELE, c'est super parce qu'il n'y a aucune dimension fédérale et politique. C'est juste une zone de libre-échange. Et comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de capitaux donc, américains, anglais, suédois, français, qui s'installent, qui sont envoyés au Portugal. Et le Portugal, c'est la Chine de l'époque, en fait, c'est le Bangladesh de l'époque. Tu as, pas très loin, une main-d'œuvre infantile, féminine, extrêmement mal payée, masculine, qui n'a pas de droit, qui n'a plus de tradition syndicale, qui ne peut pas faire grève et qui est payée extrêmement peu cher. Donc c'est... tout bénéfice pour une partie.
Un Eldorado pour les capitalistes.
Ouais. Donc souvent... ce que je dis, c'est que nos t-shirts, avant d'être faits au Bangladesh, pendant un moment, ils étaient faits au Portugal, en fait, parce qu'il y avait une main-d'œuvre extrêmement peu chère et exploitable quasiment à merci.
Et ça, ça va transformer beaucoup la société portugaise, puisque dans les années 60, il y a à la fois, bon, il y a une crise des campagnes qui est très forte, que ce soit dans les zones latifundières du Alentejo ou du Baribatejo, ou dans le nord où domine la toute petite propriété parcellaire et miséreuse. Et donc les gens viennent dans les villes, que ce soit Lisbonne ou Porto, ou Setúbal ou Braga, et cherchent à se faire employer dans ces nouvelles industries.
Tout à fait. Les années 50, mais surtout les années 60, sont une période de changement impressionnant au Portugal. Il y a un historien portugais qui dit que le Portugal est passé en quelques années d'une société pré-moderne à une société... moderne, voire post-moderne, avec une industrie qui devient le principal secteur d'activité au milieu des années 60, extrêmement rapidement. Et ces années 60 sont... Il y a des changements qui nous permettent de comprendre le 25 avril et ce qui se passe après, surtout, extrêmement puissant. C'est-à-dire que d'une part, 1,4 million de la population s'en va, notamment en France, pour un pays qui a 9 millions d'habitants. C'est 1,4 million sur 9 millions d'habitants qui partent. Et donc, c'est un des départs qu'il faut combler, mais c'est aussi de l'arrivée d'argent, mais l'arrivée de nouvelles idées, de nouvelles revendications, mais aussi des frustrations au sein de...
Mais l'arrivée d'argent, c'est l'argent qu'envoient les émigrés qu'ils renvoient au pays.
Tout à fait, ouais.
Qui est considérable, hein,
qui est considérable, qui a avant la révolution des œillets, c'est 8% du PIB. Donc c'est extrêmement important. Et ce qui permet notamment d'expliquer pourquoi le Portugal n'a pas eu de difficulté à financer ses guerres coloniales en achetant des armes à qui ? À la France, par exemple, parce qu'ils avaient des réserves de francs assez importantes. Y a ça, et effectivement, cette industrialisation autour de Lisbonne, mais aussi autour de Porto, avec des entreprises portugaises avec des capitaux étrangers, ou des entreprises étrangères, notamment certaines qu'on va retrouver après mai 1974, où il y a des grandes grèves, la Philips, Timex, une boîte de montres, etc. Donc il y a plusieurs entreprises, industries, avec des capitaux étrangers. Et donc il y a une industrialisation extrêmement forte. Et autre élément important pour le 25 avril, une urbanisation qui ne suit pas du tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, Salazar a voulu limiter la croissance des villes, parce que la ville, c'est l'enfer. pour Salazar. Salazar, oui, c'est un rural.
Il y a une urbaphobie, une phobie de la ville. Exactement, très, très forte, ouais, dans le régime Salazar.
Tout à fait. Mais donc, il faut quand même commencer à construire de plus en plus. Et là, l'État n'est pas en capacité. Et là, il y a aussi beaucoup de, comment dire, beaucoup de corruption, beaucoup de business. Et donc, autour de Lisbonne et Porto naissent des énormes banlieues, des énormes villes, mais souvent... on construit d'abord les immeubles, après on voit. On voit les routes, on voit les écoles, on voit les trottoirs. Moi, c'est des villes pas très pensées. Et tu as à Lisbonne, à Porto et même dans certaines villes de province, des énormes bidonvilles qui se développent. Un non-logement ou un mal-logement ou un mauvais logement qui s'étend et qui va notamment expliquer les grandes luttes urbaines de l'année 74-75, où il y a des occupations de logements vides, des occupations de lieux pour faire des crèches, etc. Mais donc, il y a cette... les années 60 et 70 sont une mutation considérable de la cité portugaise.
Oui, sans laquelle, effectivement, on ne comprend pas ni le 25 avril lui-même, c'est-à-dire la chute de la dictature par cette action de jeunes militaires, ni en fait ce qui va suivre, c'est-à-dire un an et demi de processus révolutionnaire dans lequel, effectivement, il y a des luttes ouvrières au premier plan, mais il y a aussi ces luttes urbaines et cette reprise à une échelle de masse d'habitation, de logements vides, etc. Peut-être pour nous emmener vers la conclusion de cet entretien et aborder un aspect très important qu'on n'a pas encore traité, la question du colonialisme. D'abord, peut-être des structures coloniales du régime, de ces guerres coloniales à partir de 1961, qui en fait sont le début des guerres coloniales, parce que le mouvement de libération nationale, notamment en Angola, lance une offensive contre le colonialisme portugais. Ce qui va nous emmener vers justement la crise au sein de l'armée, crise militaire, mais qui devient assez vite une crise politique, enfin assez vite, en tout cas à partir du début des années 70. Et qui va conduire justement à la constitution de ce mouvement des forces armées et à l'initiative du 25 avril 1974 qui fait tomber la dictature.
Le salazarisme, l'État nouveau, va hériter d'un empire qui est déjà là. Mmh. Il ne va pas l'étendre, mais il va vouloir le défendre et il va reprendre en partie la propagande, le discours colonialiste, raciste, qui existait déjà du temps de la Première République.
On pourrait presque dire que par rapport au régime fasciste italien et allemand, c'est une des particularités du fascisme portugais, si on reprend ce terme-là, c'est qu'il n'a pas besoin, en quelque sorte, de conquérir un espace vital, comme diront les nazis, ou de conquérir des colonies comme en Éthiopie, avec la guerre de type génocidaire qu'a menée l'Italie mussolinienne. C'est que son empire est déjà là, effectivement.
Exactement. Et en plus, il est déjà là, et depuis la critique qui a été faite, notamment la grande crainte des Portugais fin 19e, ce qui explique pas mal de choses, et même juste dans les années 30, c'est la grande crainte qu'on vienne prendre une partie des possessions portugaises avec l'idée que le Portugal est un pays pauvre, peu industrialisé, avec peu de capitaux. Donc pourquoi il a un si grand empire par rapport à sa puissance et à ce qu'il peut en faire? Et toujours cette idée que l'empire portugais est sous-exploité. Mmh. Alors qu'il y avait du travail forcé, du travail quasi esclavagiste encore au début du XXe siècle, alors qu'il y avait un mode brutal, violent de l'exploitation coloniale dans les colonies portugaises.
Alors qu'il y a le mythe d'un colonialisme plutôt doux.
Oui, ça, mais j'y reviendrai, exactement. Mmh. Ouais. Mais donc Salazar, il hérite de cet empire, il hérite déjà d'une propagande, il ne va pas inventer grand-chose dans ce domaine, en l'occurrence. Il y a déjà, à la limite, c'est un point de convergence, et on le verra en 61 avec les Républicains, qui eux aussi ont été des défenseurs acharnés de l'empire et qui ont eu des pratiques brutales, extrêmement brutales, en Angola notamment et au Mozambique. Et Salazar, par exemple, il ne va jamais aller dans l'empire colonial. Il ne va jamais mettre les pieds dans l'empire, alors qu'il va ensuite incarner la défense de cet empire colonial. Et l'empire colonial sert la propagande, notamment cette idée, il y a une très célèbre affiche qu'on voit un peu partout, le Portugal n'est pas un petit pays, où on superpose la carte de l'Europe et la carte des colonies portugaises, et on voit que le Portugal va du Portugal à la Russie. Et le salazarisme va, encore une fois, dans la continuité de la République, essayer, notamment, il y a un discours sur l'homme nouveau, et l'homme nouveau, c'est le colon. Et donc, inciter les Portugais à aller dans les colonies, mais avec toujours, et même juste dans les années 50, et un peu plus tard, avec toujours une peur, la grande peur du Portugal, c'est le Brésil. Le Brésil, qui est-ce qui a pris l'indépendance ? Ce ne sont pas les populations exploitées, indigènes ou issues de l'esclavagisme. Ce sont les Portugais, les colons, qui prennent leur indépendance. Et donc, il y a toujours aussi cette crainte de Salazar vis-à-vis des colons en Angola et au Mozambique, c'est que ces colons, à un moment, ils disent la métropole nous empêche de nous développer, la métropole est trop loin, ne comprend pas nos problèmes, prenons le pouvoir. Et cette crainte sécessionniste qui va ensuite se produire en Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, va aussi faire que ces politiques d'envoi de colons va toujours être assez prudente parce qu'on a quand même peur qu'il y ait trop de colons insatisfaits et qu'ils puissent prendre leur indépendance. Mais bon, je vais faire un saut et arriver en 61. En 61, il y a un ensemble d'événements en 61, en fait. Il y a des émeutes dans le nord de l'Angola, notamment dans les champs de coton, où il y a une culture obligatoire du coton avec des conditions de travail extrêmement dures, du travail forcé. Et donc, il y a des travailleurs qui se révoltent. Ensuite, le 4 février, il y a des attaques des prisons de Luanda, la capitale de l'Angola, pour libérer des militants indépendantistes qui avaient été emprisonnés quelques temps auparavant. Et surtout, le 15 mars 61, l'UPA, donc l'Union des peuples d'Angola, donc un mouvement qui est basé au Congo ex-belge, qui n'est pas du tout marxisant en l'occurrence, qui provoque une attaque assez violente avec des massacres de populations blanches ou des populations africaines mais qui venaient du sud de l'Angola. Et donc ces différents événements forment le début de ce qu'on appelle les guerres coloniales au Portugal. Alors on dit guerre coloniale au Portugal, guerre de libération en Afrique, guerre d'indépendance ou guerre de l'outre-mer, mais où soit à l'époque on ne parle pas de guerre en fait. C'est des opérations de maintien de l'ordre.
Comme toujours.
Exactement. Et donc, à partir de 61, le grand discours de Salazar, c'est en Angola rapidement et en force. On envoie l'armée. C'est à ce moment-là qu'il y a une tentative de putsch contre Salazar, dont on considère les militaires considèrent qu'il n'est plus à la hauteur, il est trop vieux, il a bientôt 80 ans. Peut-être qu'il faudrait trouver une solution. Les Américains, à l'époque, sous Kennedy, font pression sur le Portugal pour qu'il trouve une solution néocoloniale.
Une sorte de Commonwealth à la portugaise.
Exactement, ou trouver, faire un plan pour progressivement octroyer l'indépendance à ces pays. Parce que la grande crainte, c'est que...
C'est qu'ils tombent dans l'escarcelle communiste.
Exactement. Donc il vaut mieux négocier avant que ça. Et néanmoins, Salazar n'écoute rien ni personne et fait entrer le Portugal dans un autre pays. Un pays donc, où tous les jeunes hommes doivent aller se battre. Et à partir de 68, le service militaire dure 4 ans. 2 ans de formation, 2 ans dans les colonies, où 40% du budget est orienté vers la guerre coloniale, où le Portugal, ça c'est un peu à nuancer, devient un peu un paria en Europe occidentale, parce que c'est le seul pays qui conserve après 62 et l'indépendance de l'Algérie, c'est le seul pays qui semble mener une guerre archaïque que tous les autres pays européens ont dû lâcher, parce que...
Mais c'est le temps aussi de la guerre du Vietnam.
Exactement.
Qui est un autre type de conflit, mais de guerre
Mais qui est intéressant, parce que, et ce qui va être intéressant pour certains officiers qui vont provoquer le 25 avril, c'est que même les Américains, même la première puissance au monde, n'arrivent pas à gagner une guerre...
Sur le terrain militaire.
Sur le terrain militaire contre des guérillas, en fait. Donc si même les États-Unis n'y arrivent pas, comment nous, on va y arriver, en fait. Mais donc... Cette guerre coloniale va complètement changer le pays, le Portugal. Le Portugal va être relativement isolé, mais la France, par exemple, va soutenir le Portugal tout au long des années 60. Ça va un peu se nuancer dans les années 70. La RFA aussi. Et donc le Portugal va réussir à continuer cette guerre. Néanmoins, et cette guerre, elle va s'étendre en Guinée-Bissau en 63, avec le PAIGC d'Amílcar Cabral, et en 64, au Mozambique, avec le Frelimo. Là, tout à l'heure, tu parlais de la singularité de l'exception portugaise. La dictature, dans les années 60, face à ces trois conflits, va dire qu'en fait, bon, il n'y a pas de guerre. Ce sont des terroristes étrangers, financés par Pékin, par La Havane, par Moscou, qui tentent de prendre ce qui est portugais, les possessions portugaises. Et donc, retirent toute velléité d'indépendance de la population africaine. Et c'est à cette époque-là que se développe énormément... ce qu'on appelle l'usutropicalisme. L'usutropicalisme, c'est une vulgate, c'est pas vraiment une théorie, ça repose sur pas grand-chose, c'est vraiment une idéologie, c'est un discours idéologique, mais qui ne décrit pas le réel, qui vient d'un sociologue brésilien, Gilberto Freire, et qui, à partir des années 30, dit, avec ce concept de démocratie raciale, qui dit que les Portugais sont très différents des Anglais, des Belges, des Néerlandais, de tous les autres Européens, qui, eux, sont racistes. Et qui ont été racistes et violentes sous les colonies, tandis que les Portugais, non. les Portugais ne sont pas racistes, par essence, par nature, et sous les tropiques, les Portugais se sont mélangés. Grosso modo, les hommes ont violé, il ne le dit pas comme ça évidemment, mais ont eu des relations sexuelles avec les femmes, et de ces relations est née une nouvelle société métissée. Ça ne repose pas sur grand-chose, tout cela. Vous aviez dans l'Angola et le Mozambique, d'un côté les Blancs, de l'autre côté la grande majorité des Africains et une minorité de Métis, mais ce n'était pas du tout une cité métissée. Mais donc dans les années 60, le salazarisme reprend ses théories.
Oui, ça vient en quelque sorte se substituer à la rhétorique de la mission civilisatrice. Non ?
Exactement, ouais. Ça la complète quelque part, mais c'est vraiment l'idée, alors qu'avant, avant, on n'aimait pas trop ça. Il y avait, notamment les Républicains ne voulaient pas les métissages, en aucun cas. Il y a des Blancs qui sont supérieurs et il ne faut pas... c'est une déchéance qu'il y a d'avoir des relations entre races, entre guillemets.
Donc là, naît l'idée d'empire multiracial, heureux.
Fait de l'amour, de la rencontre, et on ne parle jamais de colonialisme, de violence, de conquête.
D'exploitation.
D'exploitation, on ne parle que de rencontre. C'est le grand terme qui a été mis en avant, c'est la rencontre coloniale. Et donc cette idéologie va permettre d'expliquer l'inexplicable. Pourquoi le Portugal pense qu'il peut conserver un empire en Afrique alors que tous les autres ont abandonné, ont dû abandonner. Et ça marche notamment, pas seulement par une personne, va dire frère, ou très peu de personnes, mais étonnant, ça a marché par l'instrumentalisation de la culture populaire de masse. La grande idole portugaise des années 60, c'est Eusébio, qui est un joueur de football, qui joue à Benfica, qui joue à la sélection nationale, qui est né au Mozambique, qui est métisse, et qui va devenir le grand joueur de l'époque. Et ce Eusébio va être utilisé, tous les discours autour d'Eusébio vont être des discours du tropicaliste. C'est-à-dire, regardez cette personne qui est née en Afrique, mais qui est pleinement portugais. On va l'obliger à faire un peu de service militaire, un peu comme Johnny Hallyday, pour qu'on voit en uniforme. Donc, il va avoir tout un discours de l'usutropicalisme banal qui va essayer d'expliquer l'exception portugaise. Et pourquoi, sous les tropiques, il n'y a pas d'un côté des Africains, les Européens, les Noirs, les Blancs, il n'y a que les Portugais. Et ça va être utilisé pour refuser l'indépendance. Et ça, évidemment, et peut-être qu'on... on s'achemine vers la révolution, en fait. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée et des officiers qui viennent du Portugal et qui ont peut-être cru à cela, et certains le disent, nous, on y croyait, à l'empire, à la civilisation, au bien-être, mais en fait, ce qu'ils vont voir, c'est que, d'une part, il y a des côtés les Blancs qui sont protégés, et de côté la grande population, masse de la population, qui est exploitée, qui est discriminée, qui subit un pouvoir arbitraire, qui s'est fait massacrer en partie en 61 par des colons qui, après les attaques de l'UPA, ont contre-attaqué de manière extrêmement arbitraire et violente. Et une partie de ces jeunes officiers voient très bien que l'Empire est aussi une source de richesse pour quelques grands groupes économiques. Et la plupart des grands groupes économiques portugais sont également présents dans les colonies. Et donc, ils voient réellement le hiatus, le décalage énorme entre un discours fait d'amour, de rencontre, de civilisation, de bien-être, et une réalité d'exploitation, de racisme et de violence. Et donc, tout à l'heure, tu parlais du Vietnam. Notamment, dans le cadre des guerres coloniales portugaises, il y a une colonie où le conflit va être le plus difficile pour le Portugais et où les Portugais peuvent risquer de perdre. C'est la Guinée-Bissau. Parce que la Guinée-Bissau, c'est un petit territoire qui, en plus, n'avait aucune importance économique. Il y avait très peu de colons blancs, mais c'est un territoire au sud du Sénégal, avec des fleuves, avec une marée très importante, avec de la jungle, et qui est difficilement contrôlable. Donc très souvent, on va le présenter comme le Vietnam portugais. En plus, il y a le PAIGC, dirigé par Amilcar Cabral, grand théoricien. PAIGC,
c'est le Parti africain d'indépendance de la Guinée et du Cap Vert.
Exactement, qui a été fondé en 1956, avec Amilcar Cabral, grand théoricien marxiste, anti-impérialiste, qui réussit à obtenir des appuis d'un peu tout le monde, de Cuba, de l'Union soviétique, des pays de l'Europe de l'Est, de la Suède. Et le PAIGC va, sur le plan militaire, réussir à plus que harceler l'armée portugaise, voire même à prendre une partie du territoire. D'ailleurs, en 1973, le PAIGC va déclarer unilatéralement l'indépendance de la Guinée, en disant qu'il contrôle une grande partie du territoire guinéen. Et en Guinée, les Portugais craignent de perdre la guerre, de subir une déroute qui serait évidemment déshonorante. Et celui qui est gouverneur à l'époque en Guinée, c'est Antonio de Spinola, qui est gouverneur de 68 à 73, qui a une politique très démagogique de conquête des âmes et des esprits, de mise en place d'une politique sociale. Il se met en avant avec les chefs africains. Il crée le congrès du peuple guinéen, etc. Bon, politique à la fois du bâton, parce qu'avec une armée qui réprime violemment, et de la carotte.
Les tactiques de la contre-insurrection.
Exactement. Quoi. La guerre contre-révolutionnaire, c'est lui qui va le mener, avec Costa Gomes aussi, le plus au bout. Mais au-delà de tout ça, Spinola se rend compte qu'ils vont perdre la guerre, que l'armée va être déshonorée. Il y a, dans le livre, j'explique le précédent de Goa, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer, mais grosso modo, en deux mots, Goa, en 61, l'Inde prend Goa, qui est une possession portugaise, et Salazar va présenter le gouverneur de Goa, qui n'a pas sacrifié ses hommes, comme un traître. Donc, autour de Spinola, il y a une insatisfaction. Spinola propose à Caetano de négocier via Senghor, président du Sénégal, avec Amílcar Cabral. Et Caetano dit, il n'est pas question, on ne négocie pas avec des terroristes, parce que si je négocie en Guinée, il faudra que je négocie en Angola et en Guinée-Bissau, en Mozambique, et donc c'est la fin. Et d'autre part, l'armée s'est faite pour faire la guerre, vous pouvez la gagner, vous pouvez la perdre, mais vous faites la guerre.
Et alors, on arrive du coup à la fin du régime. Alors, Salazar est obligé de partir en 68 parce qu'il a une attaque. Et puis, il meurt peu de temps après. Donc, Marcelo Caetano parvient au pouvoir. Alors, il vient au départ plutôt de rang à la droite, y compris de Salazar, au tout début. Et puis après, plus tard, il apparaît, que, notamment après les mobilisations étudiantes de 62, plutôt comme une figure qui pourrait libéraliser le régime. En tout cas, ce qui se passe, on n'a pas le temps de trop développer cet aspect, c'est que Caetano va se retrouver pris entre nailles, entre une extrême droite ultra-coloniale qui veut mettre encore plus de moyens dans la guerre pour maintenir les colonies, et en gros des contestations, en quelque sorte à sa gauche, mais en tout cas qui, du côté de généraux comme Spinola ou Costa Gomes, etc., qui aspirent à une solution autre sur le terrain politique, éventuellement néocolonial. Bon. Mais c'est finalement pas de ça que le régime va tomber, pas avec Spinola ni avec l'extrême droite que le régime va tomber, c'est avec des capitaines et des commandants, donc des officiers intermédiaires, qui créent le mouvement des forces armées. Et d'une certaine manière, bon, le régime était en crise, il y avait des tas de contradictions qui étaient en partie alimentées par la guerre coloniale ou les guerres coloniales, mais il a fallu un acteur historique pour faire tomber le régime. On ne peut pas faire de l'histoire contrefactuelle, mais on ne sait pas ce qui se serait passé si ces capitaines et commandants n'avaient pas saisi le moment opportun pour faire tomber le régime. Et il semble qu'au printemps 1974, c'est un moment très opportun, la crise politique est maximale en quelque sorte, et ils prennent l'initiative d'un coup. Ce coup va très bien marcher, il est très bien organisé, hein, mais il y en avait eu plein d'autres qui avaient échoué. Alors peut-être que voilà, on peut conclure cet épisode sur la dictature salazariste là-dessus. C'est qui sont ces capitaines et commandants, donc ces officiers intermédiaires qui créent le MFA, le Mouvement des Forces Armées, pourquoi ils le créent, et qu'est-ce qui va faire que finalement ce coup d'État, hein, au départ c'est un coup d'État qui va lancer une révolution, mais c'est un coup d'État, un putsch, qui va faire tomber le régime, pourquoi celui-ci il va marcher en quelque sorte?
Alors, ces capitaines et ces commandants qui sont à l'origine du mouvement des capitaines, au début, leur mobilisation est purement corporatiste, liée à l'armée. Comme on l'a vu, le Portugal enrôle toute sa jeunesse masculine pour aller se battre. Et au fur et à mesure des années, la guerre devient de moins en moins populaire. Il y a une sorte d'élan patriotique en 61. La propagande colonialiste était tellement forte que même une partie de l'opposition soutient Salazar, et les seuls qui ne soutiennent pas la colonisation, c'est le Parti communiste portugais. Et les anarchistes, mais bon, ils sont très peu nombreux à cette époque-là. Mais sinon, il y a une sorte d'élan patriotique.
D'union sacrée.
Exactement. Mais au fur et à mesure des années, il y a une lassitude, et une lassitude qui se voit en 71, 20% des jeunes hommes ne se présentent pas au service militaire. Beaucoup partent en France, en Suède, etc. Parce que cette guerre, c'est pas la leur, parce qu'ils n'ont pas envie de mourir là-bas, ils n'ont pas envie de passer 4 ans sous les drapeaux, mais c'est pas anodin. Quand on partait à l'époque, c'était difficile de revenir. Alors, après, le régime salazariste, l'institution militaire était assez pragmatique, et si des jeunes hommes étaient partis à l'étranger et qu'ils revenaient et pour faire leur service militaire, ils les réintégraient sans pénalité. Mais néanmoins, c'est des départs massifs, mais c'est pas tant un manque de soldats qui va être problématique pour l'armée portugaise, qu'en plus l'armée portugaise va de plus en plus recruter des Africains. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce que c'est des gens qui sont déjà adaptés à la chaleur, au territoire, et en plus ça fait des images de propagande fantastique. Regardez, cette armée constituée d'Africains, ça montre bien qu'ils sont portugais et qu'ils veulent que le Portugal continue à être présent en Afrique. Donc c'est pas tant un problème de soldats, mais c'est un problème d'officiers intermédiaires, parce que c'est une guerre qui demande beaucoup de moyens en officiers, parce qu'en fait, il faut quadriller tous ces territoires à des bases de compagnies, des garnisons qui ensuite ont un territoire à contrôler, à surveiller, etc. Donc il faut un capitaine, à minima. Et donc il faut trouver des officiers intermédiaires, sauf que au cours des années 60, de moins en moins de jeunes portugais vont à l'académie militaire, parce que qu'est-ce qui les attend ? Des guerres sans fin, en fait. Ouais. Donc le nombre de jeunes qui rentrent à l'académie militaire chute tout au long des années 60, des années 70. Et donc, ce que doit faire l'institution militaire, c'est de recruter des étudiants. Quand les étudiants sont en âge de faire leur service militaire, ils ont une formation particulière pour devenir des officiers de réserve, ou en portugais, on dit officier milicien. Ce n'est pas tout à fait une bonne traduction, mais c'est l'idée. Avec, évidemment, un grand danger, c'est que ces étudiants, notamment, tu as parlé tout à l'heure des mouvements étudiants à Lisbonne en 62, il y a les mouvements étudiants en 65, il y a la crise universitaire en 69. Évidemment, la police politique surveille les étudiants, et les étudiants qui sont connotés avec la gauche, on les surveille, on les envoie dans des régiments disciplinaires. Un certain nombre d'entre eux s'en vont, de toute façon. Mais donc, un des dangers, c'est de mettre au sein de l'armée et au sein des officiers des gens liés au Parti communiste, maoïste, etc. Et certains vont...
Surtout que la politique du PC à ce moment-là, c'est de faire rentrer des gens dans l'armée.
La grande distinction, notamment, entre les mouvements maoïstes à partir de 64 et le PCP, et surtout à partir de 67, quand le PCP édicte ses règles, c'est face au service militaire, les militants et les sympathisants du PCP doivent faire leur service militaire, doivent aller en Afrique pour noyauter l'armée et expliquer aux soldats que cette guerre est injuste. Tandis que les maoïstes disent, il n'est pas question qu'on parte en Afrique, et certains mouvements maoïstes disent, faites votre service militaire, apprenez à utiliser les armes. Si vous pouvez voler des armes et cachez-les ou ramenez-les en France, et comme ça, on utilisera les armes contre le régime. On renversera la situation. Donc l'armée, elle est obligée de recruter des étudiants, et en 71, elle va essayer, en 73, pardon, à le ministre de la Défense nationale va faire un décret qui va essayer d'inciter les étudiants qui ont fait leur service militaire en tant qu'officiers de rester au sein de l'armée et de ne pas revenir à la vie civile. Et donc, on écrit ce décret-loi, mais ce décret-loi est si mal rédigé qu'en fait, ces étudiants qui sont devenus officiers vont progresser plus rapidement que les capitaines et que les commandants issus de l'académie militaire. Et donc ça tout de suite, ça provoque une protestation au sein des capitaines, qui ont toujours mal vu les officiers de réserve, les appels les bâtards, etc. Il y a un esprit de corps. C'est des gens qui, depuis l'adolescence, voire l'enfance, se connaissent, et donc estiment être des militaires, eux, pas comme les autres. Et de ce premier mouvement de contestation, donc ils vont se rencontrer une première fois le 9 septembre 1973, et la revendication, c'est autour de ces décrets. Donc ils vont essayer d'obtenir sa suspension, son annulation, et en fait, au bout d'un moment, le régime va voir, le régime est au courant, va voir cette contestation, parce qu'ils reçoivent des pétitions, ils reçoivent... ça se sait, Costa Gomes va être au courant, va prévenir le gouvernement en disant ça chauffe. Et de ce mouvement de contestation sur des d'ordre corporatiste, au cours des réunions, certains vont dire mais le problème c'est pas ça, le problème c'est les guerres. Et très très vite alors c'est pas toujours très bien accueilli, les premiers qui disent ça grand blanc dans la salle, parce que c'est des gens qui ont été formés sous la dictature, qui sont rentrés dans l'armée, donc c'est rarement des gauchistes, et après très très vite, au fur et à mesure des réunions, l'idée que il faut mettre fin à la guerre parce qu'elle n'est pas gagnable et qu'il faut donc mettre fin à la dictature, va croître. Et autour de certains personnages, de certains militaires, qui sont Otelo Sabal Carvalho, qui est en Guinée, Vachelo Lens, qui était également en Guinée, de Ernest Melwantunj, qui va devenir le grand intellectuel du MEFA, parce que lui, il appartenait déjà à l'opposition
Socialiste plutôt.
Exactement, plutôt socialiste, mais même, voire même à gauche.
Mmh. Tiers-mondiste.
Etc. Mmh. Donc il va avoir une grande influence dans la rédaction du programme qu'il rédige en grande partie. Mais aussi en 75. Alors après, en 75, il fait partie du groupe des modérés. Mmh. Alors qu'il venait, il était presque plus à gauche en 73-74. Et il va devenir un modéré. Et un autre personnage comme Victor Hauff. Donc il y a plusieurs personnalités qui, au sein du MFA, en fait, vont dès le début, en fait, vouloir politiser ce mouvement, mais vont y aller avec beaucoup de précautions, parce qu'ils savent pas, les centaines de personnes d'officiers qui sont autour d'eux, souvent, c'est, encore une fois, c'est des gens qui sont plutôt à droite, en fait, à l'origine, et ils vont transformer complètement le mouvement des capitaines, d'une part au mouvement des forces armées, avec un objectif qui est de mettre fin à la dictature et de mettre en place une démocratie.
Donc voilà, effectivement, progressivement, le mouvement se politise. Il se dote d'un programme au printemps 1974 et il se donne comme mission, à partir d'un certain stade, de renverser le régime. Il y a une première, par ailleurs, insurrection militaire ou soulèvement militaire qui a lieu en mars 1974, qui échoue et qui va avoir une certaine importance par son échec, mais parce que celui qui est censé préparer un plan de soulèvement militaire, Othello, Salaheva de Carvalho, mais on l'appelle Othello, va en quelque sorte analyser l'échec ce premier soulèvement militaire de mars 1974 et en tirer parti pour construire un plan absolument minutieux et très malin d'une certaine manière pour que le prochain coup d'État, donc qui est prévu plutôt pour avril ou peut-être mai, soit cette fois victorieux.
En fait, il y a fin 73, début 74, il y a plusieurs contestations. Il y a d'une part la contestation du MFA, au début sur des bases corporatistes, et de plus en plus politique. D'un autre côté, il y a un autre personnage qu'on va revoir après, qui va créer une sorte de quiproquo, qui est Spinola.
Spinola, comme qui lui est général, hein, c'est exactement. Pas un officier intermédiaire.
Donc lui, c'est un général qui était gouverneur en Guinée de 68 à 73, qui en 73, la situation devient terrible d'un point de vue militaire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, même le PAIGC déclare l'indépendance de la Guinée de façon unilatérale, et beaucoup d'États africains et du camp communiste reconnaissent cette indépendance. Et il y a des moments où l'armée portugaise rentre en quasi-déroute. Donc, grosso modo, il démissionne pour ne pas être attaché à une déroute militaire. Et il rentre au Portugal avec Spinola, notamment avec son monocle.
Le général au monocle.
Il avait construit une image du chef militaire, il avait des relations de presse.
Il est proche de la famille Champalimau.
Exactement, oui.
Donc il a des réseaux.
Exactement, il a des réseaux, mais surtout, il a des velléités politiques. C'est pas un simple général.
Il veut être un de Gaulle, non ?
Il veut être un de Gaulle, exactement, c'est un peu son modèle. Et donc, en 73, il quitte la Guinée, et grosso modo, Caetano sait très bien qu'il faut lui trouver un poste. On peut pas... Qu'est-ce qu'il veut ? Et donc, on lui crée un poste sur mesure, à la fois prestigieux, mais sans quasiment aucune importance. Il devient vice-chef de l'état-major des forces armées. Il y a un chef au-dessus de lui, c'est Francisco da Costa Gomes, qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est lui qui a participé à un putsch contre Salazar en 61, qui réussit pas et qui est envoyé dans les colonies, qui devient un des meilleurs généraux. Mais c'est assez ironique, hein, parce que c'est un de ceux qui réprime le mieux les mouvements en Angola et au Mozambique. Et qui développe aussi extrêmement bien cette logique de la guerre contre-révolutionnaire, contre-subversive, etc. Et donc, qui a atteint le sommet de l'institution militaire. Et donc, Spinola, début 1974, il est nommé vice-chef de l'état-major. Et en février 1974, il publie un livre qu'il prépare depuis longtemps. Et ce n'est pas vraiment lui qui l'a écrit, hein, c'est souvent les officiers sous ses ordres, qui s'appelle « Le Portugal et le futur », qui est une véritable bombe. Pourquoi c'est une bombe ? Parce qu'en fait, grosso modo, il dit que la solution des guerres coloniales n'est pas militaire. Ces guerres, on ne va pas les gagner. La solution aux guerres coloniales est politique. Et lui, ce qu'il propose, ce n'est pas l'indépendance, loin de là, c'est de créer une sorte de fédération, de Commonwealth, il appelle ça la communauté Lusiade. Donc une solution néocoloniale où on donne certes un peu plus d'autonomie aux anciennes colonies, on leur donne même le titre d'État qu'elles avaient déjà. Elles ont plus d'autonomie, mais elles restent rattachées au Portugal. C'est pas une coupure nette et franche. Ce bouquin, pardon, sort le 22 février 1974, et ça crée une bombe, parce que d'une part, il s'arrache comme les petits pains, et d'autre part, Caetano se retrouve en situation compliquée. Caetano l'avait pas lu au préalable, avant qu'il soit sorti, et en fait, Spinola avait dû demander l'autorisation, Caetano avait demandé à Spinola de demander l'autorisation de son supérieur, qui est Costa Gomes. Et Costa Gomes fait un compte-rendu, dit c'est un très très bon bouquin, c'est une très très bonne solution. Donc Caetano, il se retrouve avec ce bouquin qui a un grand succès, et l'extrême droite, comme tu disais tout à l'heure, Caetano se retrouvait prise en tenaille, autour du président de la République, qui est un vieil amiral très réac,
Américo Thomas,
il y a toute l'extrême droite qui gravite et qui disent, en fait, Caetano a laissé ce bouquin sortir pour imposer cette solution. En fait, l'extrême droite a toujours suspecté Caetano d'être l'agent de la décolonisation. Et donc, l'extrême droite dit au président, il faut faire quelque chose, Caetano fait ça pour brader l'Empire, ce qui n'est pas le cas. Et donc, Caetano va se retrouver obligé de trouver une solution, et donc il va demander à tous les généraux, le 14 mars 1974, de venir à une réunion où l'armée va dire qu'elle soutient la politique coloniale menée par la dictature, par lui. Et à cette réunion, plusieurs généraux refusent de venir, mais surtout refusent de venir Spinola et Costa Gomes. Ce qui est un geste de défi extrêmement important vis-à-vis de Caetano. Et Caetano n'a pas d'autre choix que de les démettre de leurs fonctions. Donc les deux principaux chefs de l'armée, relativement prestigieux, sont démis. Et donc ce premier coup d'État que tu viens de mentionner, le 16 mars, c'est notamment une partie des officiers proches de Spinola qui tentent un coup d'État le 16 mars pour prétester et pour prendre le pouvoir après la démission de Spinola. Et à ce coup d'État, ce putsch très mal organisé dans la va-vite, Othello est un peu partie prenante et il est partie prenante et il voit son échec. Et notamment, alors si vous connaissez Lisbonne, il y a à côté, à l'entrée de Lisbonne, il y a l'aéroport, il y a un rond-point, il s'est mis là, et en fait, il voit quelle force arrive, la gendarmerie, et donc en fait, il voit comme qui va soutenir la dictature. Et à partir de ce coup d'État raté, le MFA va décider de demander à Othello d'organiser un plan, une opération. En se disant, là, il y a une opportunité, parce que la dictature savait depuis longtemps qu'il y avait une contestation. C'est pas là.
Mais ils avaient tellement besoin des capitaines et des commandants qu'ils ne peuvent pas adopter une posture trop répressive.
Exactement. Ils ont essayé, par exemple, Vachelouliens et envoyé aux Açores.
Ils avaient suspendu le fameux décret, d'ailleurs.
Hein. Exactement. Et non, ils ont fait une augmentation de salaire considérable pour les capitaines. Le ministre de la Défense nationale a été viré, remplacé par quelqu'un censé être plus proche des capitaines. Ce mouvement, il n'est pas du tout inconnu des autorités. Elles sont vraiment au courant. Mais donc, le MFA se dit, voilà, le 16 mars, ça a été un échec. Il y a 200 militaires environ qui sont arrêtés. La dictature et le régime va penser qu'en fait, le MFA, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est ce que pense en partie. À un moment, le secrétaire d'État, l'armée de terre, va convoquer l'attaché militaire français en leur disant, voilà, on a réglé le problème. Tout va bien, la dictature va bien, ne vous inquiétez pas, on est là encore pour longtemps. Et donc, à partir de là, Othello, de façon relativement artisanale, va préparer son coup d'État. Il va surtout veiller à voir qui est avec le MFA, et donc voir dans quelle caserne, dans quel régiment il y a des gens du MFA, et donc voir qui sont les forces pour. Il va aussi voir les forces contre, ceux qui ne vont vraiment pas être du côté du MFA. La gendarmerie, la police nationale, la légion portugaise, la PIDE surtout, et quelques régiments à Lisbonne qui sont commandés par des proches du ministre ou du secrétaire d'État. Donc eux, il sait que ça n'a pas joué. Et il y a deux forces très importantes dont il doit au moins s'assurer la neutralité. D'une part, la force aérienne, qui est plutôt d'extrême droite, parce qu'elle a été créée par Carlos Aliaga, qui est le chef de l'extrême droite, et notamment les paras. Il obtient de leur neutralité, qu'ils n'interviennent pas. Et la marine, où au sein de la marine, il y a une tradition ancienne, plus à gauche. Et la marine se méfie. Et au sein de la marine, il se méfie de l'armée de terre, qui n'a pas vraiment la même tradition de gauche. Mais donc, il obtient aussi leur neutralité bienveillante. Et même la marine, en fait, elle va participer au 25 avril. Et après, ce que va faire Othello, c'est qu'il va connaître les forces en présence, s'assurer de leurs forces, s'assurer de qui est là tel jour, etc., pour organiser un coup d'État. Après des mouvements de troupes, qu'est-ce qu'on occupe, qui occupe quoi, pourquoi on occupe ça, etc. Et quand le plan d'Othello est quand même basé pour qu'il y ait le moins possible de combats.
Et de morts.
Mais il se doutait à l'époque qu'il y aurait probablement une plus grande résistance Et pour finir, parce que c'est vraiment la transition sur la suite, une des choses que n'avaient jamais prévues les militaires, dont Othello, c'est ce qui va se passer le 25 avril, la participation populaire. Tout le monde pensait, et comme c'est arrivé le 16 mars, ou comme c'est arrivé au moment de la mort de Salazar, Salazar meurt, il n'y a pas de mouvement qui profite de la mort du dirigeant pour changer le cours des choses. Et le 16 mars, quand il y a cette première tentative, Lisbonne ne bouge pas. Personne ne bouge. Et là, ce qui change vraiment le 25 avril 1974, c'est que dès la matinée, la population qui va au travail, on est un jeudi matin, qui va au travail ou qui est dans Lisbonne, soutient tout de suite et de manière enthousiaste les insurgés. Et donc, ça va leur donner une sorte de supplément de force morale. Et surtout, du côté des, notamment des soldats qui sont envoyés pour mater le mouvement, bah souvent, en fait, ils vont changer de camp, en fait. Ils vont dire, non, on ne va pas tirer sur la foule, on ne va pas tirer contre nos camarades. Et donc, le plan d'Othello est très, très bien organisé, sauf qu'il a complètement mis de côté cette participation populaire qui va tout changer.
En tout cas, effectivement, ça fait une transition vers autre chose, un autre épisode qui sera, j'espère, consacré à la révolution de fait antifasciste portugaise, qui n'a pas été que antifasciste, puisque précisément, ce qui commence dès le 25 avril, c'est la grande participation et intervention populaire dans les affaires d'abord de la chute du régime, mais ensuite dans les 19 mois qui vont suivre jusqu'au 25 novembre 75, des luttes très massives dans la classe ouvrière, parmi les paysans notamment du Sud, à travers des luttes urbaines et des luttes étudiantes, etc. En tout cas, merci beaucoup Victor Pereira pour cet épisode très éclairant sur une des principales dictatures fascistes ou d'extrême droite, disons, si on veut laisser le point d'interrogation au XXe siècle, et ce qu'elle nous apprend sans doute de ce type de force politique et de régime. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Spectre.